La vie chrétienne est un combat. Je répète, la vie chrétienne est un combat. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas pleinement saisi cela. Ils sont abattus. Ils sont dépressifs. Ils sont dans la confusion. Parce qu'ils pensaient que, une fois qu'on est chrétien, tout irait facilement, sans problème, sans difficulté. Et lorsque la difficulté arrive, on est étonné, on est surpris, on se dit, mais c'est pas possible. On va même jusqu'à dire, oh, si ces choses m'arrivent, si ces difficultés sont là, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, voyez-vous. Tout cela parce que on ne réalise pas que la vie chrétienne est un combat. Et dans ce combat, nous avons un ennemi. Mais dans ce combat, nous avons aussi un vainqueur. Alléluia! Et qui est ce vainqueur? Qui a déjà vaincu l'ennemi? C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia! Ce qui est merveilleux avec ce combat, c'est qu'on est vainqueur d'avance. C'est formidable. Alléluia! Nous allons prendre l'image du soldat de Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle souvent que le chrétien est un soldat, n'est-ce pas vrai? Que l'Église est comme une armée victorieuse. Un chrétien est un soldat, ne l'oublions jamais. Et j'aimerais vous donner tout simplement quatre qualités du soldat chrétien, quatre qualités qui reflètent cette mentalité de soldat. Lisons pour cela quelques versets dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous avons ceci au chapitre 2 de Timothée, chapitre 2. Les quatre premiers versets. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Dans la première épître à Timothée toujours, chapitre 1, verset 18, voici ce que Paul dit encore. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Et un dernier passage de Timothée, chapitre 3, les versets 6, 7 et 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu bénisse sa parole. Le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est que tu combattes le bon combat. Quelles sont donc les quatre qualités d'un bon soldat de Jésus-Christ? La première qualité d'un soldat, vous le réalisez comme moi, c'est l'obéissance. La première des choses qu'un soldat doit apprendre à l'armée, c'est obéir. C'est peut-être la chose la plus difficile Car la parole de Dieu dit que nous sommes par nature des fils de la rébellion. Et naturellement, nous n'aimons pas obéir. Nous avons de la peine à obéir. Mais un vrai soldat de Jésus-Christ, s'il veut remporter des victoires, s'il veut combattre l'ennemi et le vaincre, il faut qu'il ait un esprit obéissant. Sans cet esprit d'obéissance, Dieu ne peut pas nous bénir et nous ouvrons même la porte à l'ennemi dans notre vie. Pourquoi ? Parce que si nous sommes fils de la rébellion par nature, qui est le père de la rébellion ? C'est le diable. C'est pourquoi nous ne pourrons pas combattre l'ennemi qui est le père de la rébellion si nous gardons en nous encore un esprit de rébellion. Je ne veux pas dire que tout sera parfait, n'est-ce pas ? Je ne veux pas dire qu'on remportera des victoires seulement lorsqu'on aura obéi parfaitement, pas du tout. Mais je veux dire une chose, c'est que l'esprit de victoire commence à agir dans la vie d'un chrétien, d'un soldat de Jésus-Christ, lorsqu'il commence à manifester un esprit de victoire. Alléluia ! Et un esprit d'obéissance. Alors, la première qualité est donc l'obéissance. Jésus lui-même nous a donné l'exemple dans ce domaine-là, et constamment il disait lui-même, « Ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Avez-vous remarqué ? Il dit bien, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Faire la volonté de Dieu, c'est une nourriture, c'est un pain. Et nous-mêmes, nous devrions être constamment déterminés à faire la volonté de Dieu. Pour beaucoup, malheureusement, la volonté de Dieu n'est pas un pain qu'on se nourrit journellement, c'est comme un médicament qu'on prend occasionnellement. Quand ça va mal, quand il y a des problèmes, quand il y a des épreuves, certains chrétiens reviennent tout de suite à Dieu, ou avant que ça aille trop mal, il faut quand même que je revienne à Dieu. Ils font la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu n'est pas une nourriture pour eux, c'est un médicament. Alors, ils veulent bien obéir, mais pour un temps, parce que ça va mal. Mais dès que ça ira bien, vous pensez bien, le médicament, on ne prend pas ça toute sa vie. On s'en éloigne. Et c'est ainsi que certains ne sont pas décidés à faire la volonté de Dieu dans leur vie, mais seulement de temps en temps. Et d'autres considèrent la volonté de Dieu non pas comme un médicament, mais comme un dessert. Ça, c'est encore autre chose. Un dessert, c'est agréable de prendre un dessert, vous êtes d'accord avec moi? On aime prendre un petit dessert. Alors, ça fait du bien, ça achève un peu le repas, c'est agréable. Et pour beaucoup de chrétiens, ils considèrent la volonté de Dieu comme un dessert. Oh oui, ça fait du bien de temps en temps obéir au Seigneur. Ça fait du bien de temps en temps, oui, louer le Seigneur. Ça fait du bien de temps en temps se rassembler avec d'autres. Ça fait du bien, oui, quand même. La vie chrétienne, de temps en temps, oui, ça donne un peu de la saveur, ça donne un peu de la ferveur, mais c'est comme un dessert seulement. C'est seulement pour à Noël. C'est comme un peu les chrétiens de Pâques, vous voyez, Pentecôte, Noël. Ils vont à l'église que ces jours-là. Mais le reste du temps, on ne les voit pas. C'est un petit dessert, oui, c'est bien, c'est très agréable. Et il leur faut ça. Mais ils n'ont jamais décidé de faire de la volonté de Dieu leur nourriture. C'est pourquoi ils meurent de faim. C'est pourquoi ils meurent de faim. C'est pourquoi nous devons courir ailleurs, chercher à manger. C'est pourquoi ce monde cherche ailleurs la nourriture. Et ils mangent, et ils mangent, et ils mangent. Et ils ne sont jamais satisfaits, n'est-ce pas vrai? Nous allons tous faire l'expérience. Ce que le monde nous offre ne nous apportera rien. Mais celui qui veut faire la volonté de Dieu, celui-là sera nourri, alléluia, sera pleinement satisfait. Celui qui veut faire sa propre volonté s'empoisonne lui-même. Car c'est lorsqu'on veut vivre pour soi-même qu'on s'empoisonne et qu'on se détruit spirituellement. Un soldat ne pense qu'à une chose, qu'à obéir, même s'il n'en a pas envie. Il est à l'armée. Les ordres sont là du matin au soir. Il doit apprendre cela. Pourquoi ? Parce que le jour peut venir où, et viendra certainement, que pendant le combat, il faudra absolument qu'on compte sur lui. Il ne faut pas qu'il y ait de défaillance en quoi que ce soit, n'est-ce pas vrai ? Il faut que lorsque les ordres viennent du capitaine ou du général, toi va là-bas, toi fais ceci, toi fais cela, en pleine bataille, vous pensez bien que les soldats ne peuvent pas commencer à dire « Oh, excuse-moi mon capitaine, mais maintenant c'est pas le moment de faire ça, moi j'ai envie d'aller me promener. » Et un autre dit « Mais excuse-moi, j'ai justement faim actuellement, j'ai pas le temps d'obéir à ce que tu viens de me demandes. » Vous voyez bien ? Le soldat doit apprendre à obéir parce que cela peut sauver sa vie un jour et aussi sauver la vie des autres. Ceci est vital. Un jour, j'ai entendu cette histoire d'un missionnaire qui, il était dans la cour de la station et tout à coup, il a vu sur l'arbre qu'il y avait dans la station un serpent venimeux. Et son enfant était en train de s'amuser sous cet arbre. Tout à coup, le père a dit « Couche-toi par terre et avance en rampant jusqu'à moi maintenant. » Il lui a dit « Ne discute pas, couche-toi par terre et avance. » En rampant. L'enfant, il se demandait ce qui arrive, mais pourquoi je dois me coucher par terre ? Il a heureusement obéi. Il s'est couché par terre et il a commencé à ramper. Et une fois que l'enfant était près de son père, le père s'est retourné et a dit à son fils, « Mon enfant, regarde, si tu t'étais levé, regarde, le serpent était là et ça aurait été mortel pour toi. » Et l'enfant, heureusement pour lui, a obéi. Son obéissance lui a sauvé la vie. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Tout au long de cette année, Dieu vous parlera et il vous demande une chose, d'obéir. Peut-être pendant ces quelques jours ici, Dieu vous parlera certainement. Qu'allez-vous faire ? La parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne demande pas de nous qu'on fasse beaucoup de choses pour lui plaire. Non, ce qu'il nous demande, c'est de lui obéir. Et si Dieu te parle, et il te parlera, alors obéis. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce que cela veut dire ? Non seulement l'obéissance nous préserve des ruses de l'ennemi, mais l'obéissance nous conduit dans le chemin de la puissance avec Dieu. Alléluia ! Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit ne vient jamais sur quelqu'un qui ne veut pas obéir, qui, lorsque Dieu lui parle, ne veut pas dire « Oui, Seigneur ». Et pourtant, nous pouvons résumer la vie chrétienne à un seul mot, ou à deux mots, si vous le voulez, « Oui, Seigneur ». Toute la vie chrétienne peut se résumer en cela. Oui, Seigneur, lorsqu'il vous parle. Oui, Seigneur, ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Et si nous obéissons, c'est la preuve que nous l'aimons. Et l'évangile de Jean nous dit au chapitre 14 que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Ô gloire au Seigneur. La preuve que nous l'aimons se vérifie lorsque nous obéissons à sa parole. Mes chers amis, si nous voulons que Dieu nous utilise, si nous voulons combattre ce bon combat, alors Il nous faut avoir cet esprit d'obéissance. Voulez-vous dire au Seigneur, « Seigneur, je veux t'obéir. Je sais que cela me coûte. » Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je sais, ce n'est pas facile. Mais il n'y a pas d'autre issue. Seule l'obéissance nous permettra de voir la main de Dieu dans notre vie. Gloire au Seigneur. Et seule l'obéissance prouve que nous sommes d'authentiques enfants de Dieu. Allons un peu plus loin maintenant. Un soldat doit être obéissant, mais un soldat doit être aussi courageux. Si le soldat n'est pas courageux, alors vous pensez bien que ça n'ira pas non plus. C'est pourquoi un chrétien doit être courageux. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de la crainte. Il y en a qui pensent que être courageux, c'est faire quelque chose absolument sans aucune crainte. Non ! Être courageux, c'est justement le contraire. C'est faire quelque chose malgré la crainte que vous avez. C'était le moment de dire Alléluia aussi. Je trouve que ça, c'est formidable. Beaucoup d'entre nous, nous culpabilisons en disant « Oh, mais moi, alors là, du courage, j'en ai pas, il y a de la crainte en moi. » Non ! Être courageux, ce n'est pas être absolument dépourvu de crainte. Non, pas du tout. La crainte est là, mais c'est malgré tout ne pas nous laisser arrêter. C'est surmonter l'obstacle. C'est être déterminé à combattre jusqu'au bout. Alléluia ! C'est cela le vrai courage. La crainte est là. Le combat est là, mais nous voulons, envers et contre tout, glorifier le Seigneur. Béni soit son saint nom. Avez-vous remarqué ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir dans Jean chapitre 16 ? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, prenez courage. Prenez courage maintenant. S'il y en a au milieu de nous qui sont découragés, mais prenez courage. Dites, eh bien, le Seigneur sera avec moi. Jésus a dit aussi aux pécheurs. Il leur a dit, à un moment donné, il lui dit, mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. N'est-ce pas merveilleux? Jésus vous dit aussi, maintenant, tes péchés peuvent être pardonnés. Prends courage, si tu es découragé à cause de ton péché, à cause d'une rébellion, d'une désobéissance, tu le sais. Prends courage, mon enfant, Dieu veut te pardonner. Si tu te repens sincèrement, Dieu veut te libérer de cette culpabilité. Ne reste pas sous ce poids. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Oh, alléluia! C'est vrai que nous ne pouvons pas être courageux s'il y a un péché dans notre vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Mais Dieu est là. Il te dit, mon enfant, prends courage. Ne reste pas comme ça. Ne pleurniche pas. Ne sois pas déprimé. Confesse ton péché. Il y a un moyen pour s'en sortir. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Et Jésus a dit aussi aux malades, à celles qui avaient la perte de sang, qu'est-ce qu'il a dit? Mon enfant, prends courage, ta foi t'a guéri. Oh, alléluia. Jésus dit cela aussi aux malades. Vous savez, pour être guéri, il faut aussi avoir du courage. Une personne déprimée, découragée, a beaucoup de peine à recevoir sa guérison, n'est-ce pas vrai? Même les médecins vous diront cela. Une personne malade dans un hôpital, eh bien, aura beaucoup de peine à être guérie. Tandis que l'autre qui garde son moral, qui essaye de se maintenir, cette personne sera guérie beaucoup plus facilement. Mon enfant, prends courage. Ta foi t'a guéri. Ne te décourage pas. Jésus veut faire un miracle. Le Dieu de l'impossible est là. Mais il ne peut rien faire sans que tu le veuilles. Si tu dis tout est perdu, si tu dis c'est fini maintenant, Dieu ne peut plus rien faire pour moi, il ne peut rien faire. Il sera fait selon ta foi. Mon enfant, prends courage. Prends courage. Ta foi t'a guéri. Oh, gloire à Dieu. Vous rappelez ce que l'Éternel a dit à Josué aussi, avant d'aller conquérir Canaan? Dans le premier chapitre, au moins quatre prises, l'Éternel dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage, mon enfant, fortifie-toi. Tu vas bientôt pénétrer dans ce pays. Tu vas le conquérir. Mais sans courage, nous ne pouvons rien faire. » Bien souvent, nous disons, « Seigneur, donne-moi du courage. » Mais le Seigneur lui dit, « Prends courage. Prends courage. » Ne dites pas, « Seigneur, donne-moi du courage. » Le Seigneur vous dit, « Prends courage. C'est que vous pouvez. C'est vous qui devez faire le premier pas. C'est vous qui devez dire, eh bien maintenant, il n'y a pas d'histoire. Je ne veux pas me laisser arrêter. Cette difficulté, cet obstacle, cette maladie, cette épreuve, je ne veux pas me laisser arrêter par cela. Un soldat a du courage, il est endurant. C'est l'endurance du soldat. Il ne se laisse pas arrêter. J'ai lu cette histoire une fois de deux personnes qui avaient malheureusement dû subir une opération. Et cette opération, c'était l'amputation d'un bras. Ils avaient été tous les deux chez le même chirurgien. Et deux ans après, ces deux personnes sont venues visiter le chirurgien. Et il y en a un, le premier, qui commence à lui dire, « Ça ne va pas du tout. Je ne pourrai plus me marier. Je suis absolument une loque. Je ressemble à rien du tout. C'est pas possible. Je ne peux plus m'en sortir maintenant. » Et il était là complètement dépressif. Et l'autre disait au chirurgien, « Mais la vie est merveilleuse. Mais je fais aussi bien qu'avant. Même avec un bras, je m'en sors, c'est formidable. J'ai trouvé même du travail. Et je me suis même marié. Mais c'est formidable. » Voyez-vous, deux expériences identiques, mais deux réactions différentes. L'un avait du courage et l'autre n'en avait pas. Nous en avons besoin, n'est-ce pas, de ce courage. Amen. Oh, mes frères et sœurs, regardons, Seigneur. Utilisez vos épreuves pour grandir. Utilisez vos difficultés pour dire, eh bien, à cause de cette difficulté, je me rapprocherai de Dieu, je grandirai. Je veux glorifier Dieu dans ma vie. Alléluia. Au lieu de dire, eh bien, Dieu m'a abandonné, c'est fini maintenant. Non, mes chers amis, un soldat a du courage. Il prend courage. Prenez courage. Oh, alléluia. Vous en aurez besoin tout au long de cette année. Prenez courage. Rappelez-vous de cet homme-là. Rappelez-vous. Je lisais aussi l'histoire d'un général, puisqu'on est, on parle de l'armée un petit peu. Il faut donner un petit exemple de militaire. Mais c'est un exemple tout à fait particulier. Ça se passait en Écosse pendant une guerre. Là-bas, un général écossais avait subi 6 défaites successives. 6 défaites. Et il était totalement découragé. Et l'ennemi était là. C'était bientôt la défaite totale. Alors qu'il était là, étendu, il a aperçu une petite araignée dans un coin qui était en train de tisser sa toile. Et il a remarqué une chose. Cette araignée essayait de tisser sa toile et il y avait un fil qu'il devait accrocher, hein, voyez, en haut, là-bas. Alors cette araignée a commencé à le faire une fois. En arrivant en haut, pouf, l'araignée est retombée. Elle n'a pas pu s'accrocher. Alors l'araignée ne s'est pas laissée décourager, elle a recommencé. À peine arrivé en haut, boum, de nouveau tombé. Alors le général pensait, eh ben, cette araignée est un peu comme moi. Hein. Elle essaye quelque chose, mais elle n'y arrive pas. Alors, une troisième fois, l'araignée recommence, ne se décourage pas. La troisième fois, ça va encore pas. Mais l'araignée ne s'est pas découragée. L'araignée a essayé 6 fois de suite. Mais 6 fois, elle a échoué. Alors le général s'est demandé, tiens, mais là, il y a une leçon pour moi. Si l'araignée essaye encore une fois, si elle essaye une 7e fois de faire le point là-haut, eh bien, moi, je recommencerai aussi. Et il a regardé son araignée. L'araignée ne s'est pas découragée. Allez donc, encore une fois, l'araignée est repartie. Et la 7e fois, elle a pu s'accrocher. Et c'était fait. Alors le général a dit, eh bien, il a appelé sa troupe, il a dit, mes amis, en route. Et ils sont partis en vainqueur et pour vaincre. Et ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Et la victoire qu'ils ont eue ce jour-là a délivré l'Écosse. Je ne sais pas quelle guerre c'était, moi je n'ai pas fait tout ça. Mais il y a eu une grande victoire qui a été manifestée là. Et tout cela à cause d'une petite araignée et d'un général qui ne s'est pas laissé décourager totalement. Il était découragé, mais il a pris courage. Alléluia. Est-ce que tu as essayé plusieurs fois à remporter des victoires dans ta vie? Est-ce que tu as essayé une fois, deux fois, trois fois? Combien de fois on me dit cela? Il n'y a pas longtemps, j'étais à Grenoble et des jeunes sont venus me voir après la réunion en disant, mais ils étaient découragés, complètement découragés. Et ils m'ont dit, c'est pas possible, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on est retombé, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai dit, il n'y a pas d'histoire. Vous ne devez pas vous laisser décourager. Vous devez persévérer jusqu'à la victoire. Mais on a essayé, il n'y a pas d'essayer. On n'essaye pas, on est décidé à aller jusqu'au bout. Alléluia! Combien de personnes essayent seulement, et quand ça ne va pas, eh bien ils abandonnent tout. Il n'est pas question d'essayer, il est question de décider. Il est question de décider d'aller jusqu'au bout et de voir la victoire du Seigneur dans ce qu'il veut nous donner. Alléluia! Mon enfant, soldat du Seigneur, prends courage! Alléluia! La parole de Dieu dit, le juste tombe combien de fois? Sept fois. Mais combien de fois il se relève? Deux fois? Trois fois? Mais chaque fois, il se relève. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il y a dans la nature du juste l'esprit du vainqueur. Gloire à Dieu! Oh, ne vous découragez pas! Nous avons besoin de cela pendant cette année. Vous ne trouvez pas? Vous aurez besoin de courage. J'aurai besoin de courage dans mon ministère, dans ma famille, dans ce que vous faites. Vous en aurez besoin. Ne vous laissez pas aller. Alléluia! Une troisième qualité maintenant. Un soldat doit être prêt à se sacrifier. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat doit être prêt à faire cela. Ce ne sont pas les autres qui doivent se sacrifier. Il y en a qui sont spécialistes pour cela, pour dire que c'est toujours l'autre qui doit faire quelque chose. Avez-vous remarqué, par exemple, dans une famille, dans un couple, c'est très souvent comme ça. Il y en a qui ne s'en sortent pas, parce que c'est toujours l'autre qui doit commencer de faire le premier pas. N'avez-vous pas remarqué? C'est l'autre, toujours l'autre, toujours l'autre. Et on attend, chacun de son côté, tout le monde attend. Et ils attendent encore. C'est des chrétiens de salle d'attente. Chrétiens de salle d'attente, ils sont toujours dans une salle d'attente. Et comme ils attendent longtemps, ils mettent la télé devant eux et puis ils regardent comme ça. Et ils attendent. Mais le vrai chrétien, le soldat de Jésus-Christ, doit avoir cet esprit de sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux attitudes dans la vie. Deux attitudes. La première attitude est celle-ci. On vit pour recevoir. Et c'est l'attitude humaine. Et l'attitude qui vous rend esclave. Il y en a qui ne prennent de la vie, ou il y a des gens qui sont dans cette vie uniquement pour recevoir. Moi, je vous assure, pendant quelque temps, dans ma vie chrétienne, je vivais comme cela. Je vivais comme cela, uniquement pour recevoir. Moi, je vous assure, pendant quelque temps dans ma vie chrétienne, je vivais comme cela. Je vivais comme cela, uniquement pour recevoir. C'était ma façon de vivre. Ce que je pouvais recevoir de tel frère, de telle sœur, voyez-vous, c'est une façon de vivre. C'est la façon de vivre dans ce monde, d'ailleurs. C'est pourquoi ça ne va pas. On est tous des sangsues spirituelles. On se suce tous le sang mutuellement. C'est la catastrophe. Et alors, quand il n'y a plus de sang, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien du tout. C'est la mort. Ça, c'est la vie du monde. L'esprit du monde, c'est de chercher à recevoir. Mais il y a non seulement les gens du monde qui sont comme cela, mais il y a des chrétiens. Et voilà pourquoi certains chrétiens ont des difficultés. Moi, j'ai remarqué, chaque fois que j'ai eu des crises graves dans ma vie spirituelle, c'était parce que à un moment précis, j'ai vécu pour recevoir. Et alors, naturellement, c'était le fiasco. C'était la confusion et l'esclavage. Mais Jésus est venu nous apporter une autre façon de vivre, un autre style de vie. C'est vivre non pour recevoir, mais pour donner. Vous ne pensez pas en disant, qu'est-ce que je peux recevoir de celui-ci ou de celui-là? Comme beaucoup d'entre nous nous disons, ah, qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux recevoir de lui? Qu'est-ce que je peux recevoir d'elle? Non, il y a une autre façon de penser. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux donner? Voilà l'esprit de sacrifice. Et cela transforme complètement votre vie chrétienne. Alléluia! Un soldat doit être prêt à se sacrifier. Je termine maintenant en vous donnant la quatrième qualité d'un soldat. Un soldat doit être animé d'un esprit de victoire. Amen. Si un soldat n'a pas cet esprit de victoire, ce n'est pas un bon soldat, vous êtes d'accord avec moi? Si dès le départ, avant de commencer le combat, vous dites, oh, quand ça n'ira pas très bien, alors peut-être qu'il faudrait que je voie un petit peu comment on peut s'en aller, retourner en arrière. Alors on a l'esprit de victoire quand tout va bien, mais l'esprit de victoire n'y est pas lorsque tout est contre vous. Et on dit qu'on teste la qualité d'un soldat lorsqu'il a faim et lorsqu'il n'a pas bien dormi. C'est à ce moment-là qu'on teste les qualités d'un vrai soldat. Et comment l'apôtre Paul a vaincu? Quel était l'esprit de victoire de l'apôtre Paul dans cet épître-là? Je vais vous donner trois raisons. Pourquoi lui a vaincu? Pourquoi? Trois raisons. J'ai noté ici. Premièrement, il était prêt à donner sa vie. Regardez, on a lu tout à l'heure. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Je sers déjà de libation. Cela voulait dire que l'apôtre Paul était un homme absolument déterminé à achever sa course, à aller jusqu'au bout avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, c'était un homme qui était déterminé à aller jusqu'au bout. Et celui qui est déterminé à aller jusqu'au bout a déjà vaincu. Amen. Voilà pourquoi personne ne pouvait arrêter l'apôtre Paul. Et il n'était pas là aussi pour s'en plaindre auprès du Seigneur, en lui disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces petits bobos ou ces grands bobos? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'aimes plus? Tu m'as abandonné? Jamais, jamais. Il savait que c'est cela, être chrétien, c'est être dans un combat. Mais il était déterminé à aller jusqu'au bout et à donner sa vie. Mes chers amis, si nous avons cet esprit-là, rien ne peut nous arrêter. Amen. Ah, on aura des difficultés, c'est sûr. Mais rien ne pourra vous arrêter. Un vainqueur n'est pas celui qui n'a pas de défaite. Un vainqueur est celui qui refuse la défaite. Alléluia! Il était déterminé d'aller jusqu'au bout. Êtes-vous décidé d'aller jusqu'au bout? Voulez-vous le dire au Seigneur, au début de cette année, quelle que soit votre situation, quelle que soit l'épreuve, dites Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis prêt même à mourir pour toi. Peu m'importe. Ce n'est pas la bénédiction que je recherche avant tout. C'est faire ta volonté. C'est te réjouir. Le désir de l'apôtre Paul n'était pas de premièrement de faire plaisir aux uns aux autres. L'objectif de l'apôtre Paul dans son ministère était avant tout de glorifier Dieu dans sa vie. Alléluia. Veux-tu le glorifier? Es-tu décidé à aller jusqu'au bout?
C'est déjà l'esprit de victoire. Personne ne peut t'arrêter. Deuxièmement, il y avait une deuxième détermination en lui. Voyez-vous, il faut être déterminé. L'esprit de victoire, c'est l'esprit de détermination. Il était déterminé à quoi faire encore. Au chapitre 3, au chapitre 4 de la deuxième épître, il dit encore ceci, verset 10, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'était un homme qui était déterminé à pardonner à tous ceux qui lui avaient fait du mal. Voyez-vous? C'est cela l'esprit de victoire. Que cela ne leur soit point imputé. Autrement dit, je leur pardonne. Tous m'ont abandonné, mais le Seigneur, lui, ne m'a pas abandonné. Je leur pardonne. Je leur pardonne. Voyez-vous, il y avait dans l'esprit de Paul un esprit de pardon. Il était déterminé à pardonner, même à ses ennemis, à ceux qui l'ont abandonné. Voilà l'esprit de victoire. C'est l'esprit même de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Un esprit de pardon est un esprit de victoire. Montrez-moi une personne qui sait pardonner, c'est une personne qui sera toujours victorieuse. Mais montrez-moi une personne qui ne sait pas pardonner, qui ne veut pas pardonner, et qui rumine constamment l'amertume dans son cœur, c'est une personne qui sera constamment défaite par l'ennemi, constamment ballottée par l'ennemi. La victoire est impossible pour une personne qui ne sait pas pardonner. Voilà pourquoi Paul a été jusqu'au bout. Voulez-vous aller jusqu'au bout avec le Seigneur cette année et jusqu'à son retour? Pardonnez, mes chers amis. Mes chers amis, laissez-moi dire une chose. Il y a encore une chose qui nous tiendra dans cet esprit de victoire. Si nous maintenons en nous le désir et la détermination de sauver des âmes. Amen. D'être des gagneurs d'âmes. Nous ne sommes pas ici-bas uniquement pour nous satisfaire nous-mêmes. Si l'Église cesse de penser à la mission, aux païens qui perdent, qui se perdent, et à la multitude qui va en enfer, il n'y a pas de victoire possible. Mais qu'un homme soit déterminé à avoir dans son cœur la passion des âmes. « Oh Dieu, donne-moi des âmes! Donne-moi des âmes !» Celui-là aura l'esprit de victoire. Amen. Celui-là, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Parce que c'est la plus grande tâche que Dieu donne à un homme et à une femme ici-bas. L'évangélisation et le salut des âmes. Celui qui a cet esprit-là, il a l'esprit de victoire. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on ne pouvait pas arrêter l'apôtre Paul. Que le Seigneur nous donne d'être des exemples dans ce domaine-là et de suivre aussi l'exemple de l'apôtre Paul et de Timothée aussi, qui lui était faible au départ, mais certainement Dieu l'a utilisé. Il fallait que Timothée puisse prendre la relève. Et Dieu, aujourd'hui encore, veut que des hommes et des femmes prennent la relève. Une nouvelle année commence, mes chers amis. Dieu a utilisé les uns, mais il veut vous utiliser vous maintenant. Il y a toujours une relève dans le plan de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Serez-vous prêt lorsqu'il vous appellera à la relève? Es-tu prêt? Sois prêt maintenant. Dis-lui, oui Seigneur, je veux t'obéir dès maintenant et à jamais. Amen. Prions quelques instants.